Alors, pourquoi ce titre, étendre ? Alors, je vous demande pas de vous étendre. Hein. Ça, je les vois arriver, là, on va s'étendre. Non, étendre et affermir. Vous, vous imaginez de quel texte je parle, là ? Ésaïe 54. Oh, il y a des érudits parmi nous. Je vais bientôt refiler mon tablier aux autres, moi. Je vais bientôt me mettre en retraite. Oui, étendre et affermir. Pourquoi vous dire ça ? Pourquoi j'insiste sur ce titre ? Parce que c'est tout le contraire de ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de vous dire, dans vos pensées, et ça joue sur votre foi et sur votre vie spirituelle, on vous dit, reste dans un environnement restreint et survis tant que tu peux. En gros, c'est ça, hein. Et là, c'est tout le contraire. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas suivre les directives. Hein. Hein, je ne fais pas de révolte. Hein. Obéissez aux autorités. Néanmoins, spirituellement, ça joue sur notre état d'esprit. Et je vous ai mis une petite tente là, une tente d'Orient, orientale, que j'aime assez. Parce que dans ce message d'Ésaïe, il est écrit... Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Je ne vais pas vous saouler... vous immergez de versets, on va quasiment rester que là-dessus ce matin. Parce que ça, c'est une parole que Dieu nous envoie, prophétique. Et mon objectif et l'objectif du Saint-Esprit ce matin, c'est de vous faire prendre conscience que ça, ça a été écrit, vous savez combien d'années avant la venue de Jésus ? 600. 600 ans à peu près. 611 ans avant... ça a été écrit, et donc 600 plus 2000, 2600, ça date. Eh bien, cette parole, je le déclare pour vous et pour moi, elle est présente, elle est, elle est de notre temps. Car tu te répandras à droite, à gauche, ta postérité enverra, envahira des nations et peuplera des villes désertes. Mon objectif, notre objectif ce matin, c'est que nous réalisions que cette prophétie nous est adressée. Cette parole, elle est envoyée depuis le trône de Dieu sur son Église aujourd'hui. Alors sur Betsalel, mais je pense qu'elle est envoyée sur l'Église dans le monde entier. Cette parole, elle est pour moi. Et j'ai qu'un seul objectif, c'est que vous puissiez ressortir de votre dimanche de culte en sortant avec cette parole, en le gardant près de votre cœur pour vous dire « Cette parole, elle m'est adressée et ça va changer maintenant ma manière de me comporter et d'être. Et ça va changer mes actions. Et ça va me faire bouger vers les buts de Dieu. » Le contexte. Pourquoi ? Je ne peux pas vous parler de ce texte d'Ésaïe 54 sans vous parler d'Ésaïe 53. Pourquoi ? Parce que à l'époque où ça a été écrit, il n'y avait pas chapitre 51, 52, 53, 54. Ça allait à la suite. Et juste avant, il y a Ésaïe 53 que vous connaissez peut-être, qu'on va lire ensemble. Méprisé, 600 ans avant, Ésaïe prophétise sur la venue de Jésus, sur sa mort à la croix, sur sa résurrection. Et il prophétise, parce que souvent on a pris ce texte-là comme étant un texte unique, messianique, qui concernait Jésus. Mais en réalité, le texte que nous allons lire nous parle de la postérité, de nous, de vous et moi. Il parle de nous. Ce texte parle de Jésus et de nous. En fait, il parle du corps de Christ. Et regardez ce qui est écrit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et abattu à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté des souffrances à la croix. 600 ans avant qu'il vienne, c'était annoncé qu'il allait porter les souffrances des uns et des autres 2600 ans après. C'est pas extraordinaire, ça? Rien que là, vous avez la preuve que Dieu est vivant, que Dieu existe. Et que celui qui a été envoyé était véritablement le Christ. Oui, il a été envoyé pour porter mes souffrances. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Frappé pour les péchés de mon peuple, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est-à-dire que toute la malédiction du péché, toute la mort, toute la maladie, toute la récompense, si je puis dire, qui sont ou la conséquence qui sont issues du péché, et Jésus l'a reçu sur lui à la croix. Et il a dit, c'est pour ça qu'il a dit, Père, tout est accompli. Tout a été fait maintenant pour que vous et moi, tous ceux qui croient en son nom depuis 2000 ans, ont la possibilité de s'approcher d'un Dieu de grâce, d'un Dieu d'amour, d'un Dieu juste. Parce qu'il ne pouvait pas laisser le péché impuni. Et il a envoyé la punition sur son propre fils. Vous imaginez le poids qui a été sur le corps, sur l'âme de Jésus au moment où ça s'est passé. Il a porté toutes nos souffrances. Et cette parole prophétique pour la personne qui avait une oppression ce matin, il l'a porté à la croix pour toi. Ça, il l'a porté. Et c'est pour ça qu'il peut dire aujourd'hui, je peux l'enlever dès lors que tu lui donnes et que tu l'invites à venir dans ta vie. Et là, je voudrais qu'on parle de nous maintenant. C'est bien, on parle du Seigneur, mais je voudrais qu'on parle de nous. Regardez, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses heures, ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel, l'œuvre de Dieu prospère entre les mains de Jésus qui est devenu le chef de l'Église. Il a souverainement été élevé. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a toute autorité, tout pouvoir. Et aujourd'hui, l'œuvre de ses mains, l'Église prospère entre les mains du Seigneur. Et l'Église n'est pas appelée à se cacher, à se taire. Elle est appelée à exprimer ce que Jésus a fait pour elle. Et cette postérité, quand je vous dis que c'est nous, ça concerne nous, cette postérité, l'apôtre Paul, en Galates chapitre 4, verset 28, le dit. Il dit, nous sommes cette postérité. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour prospérer entre les mains de l'Éternel. Relisez Galates 4, 28. Je ne raconte pas que des bêtises. Et puisque le Sauveur a donné sa vie, il est le créateur d'une postérité, j'ai deux fois créateur, il ne crée jamais assez le Seigneur, hein, avec moi, d'une postérité qui est appelée à se répandre. Regardez Ésaïe 54, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie l'étoile de ta demeure, qu'on déploie les choses, parce que ma postérité est appelée à se répandre, à s'étendre, à envahir les nations, à prendre, à faire en sorte que l'Évangile prenne de plus en plus de place dans les nations. Je suis désolé, mais messieurs les politiques, vous pourrez voter ce que vous voulez, l'Évangile s'étendra dans toutes les nations. Parce que c'est écrit, parce que je le crois, quand Dieu déclare les choses, il le fait. S'il a déclaré que Jésus allait venir 600 ans plus tard pour les péchés du monde, et s'il a écrit, et ça s'est passé, n'est-ce pas? Et si il a écrit que derrière, il y aurait une postérité qui s'étendrait dans les nations, je le crois, nous sommes cette postérité. Oui ou non? Ah, je vois des têtes. On dirait les petits chiens derrière les voitures, tu sais. A envahir la nation et regardez ce qu'il est écrit derrière. Ça m'a interpellé. Moi, il faut que j'en fasse une par message, je l'ai faite. Les peuples, peupler les villes, j'ai fait plein de fautes, de peupler les villes désertes. Ils peupleront les villes désertes. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire que la postérité du Christ, l'Église, peuplera des villes désertes. C'est quoi une ville déserte spirituellement? C'est une ville où il n'y a pas d'Église. C'est une ville où il n'y a pas la foi. C'est une ville où l'Évangile n'est pas proclamé. Ça veut dire que nous sommes appelés à prendre possession du territoire dans lequel nous sommes. Et ça, c'est pas un esprit guerrier que je dis ça. Et on aura beau vous dire, oui, vous n'aurez pas le droit de faire ceci, oui, vous n'aurez pas le droit de faire cela, peu importe. Moi, je crois que la parole de Dieu va se réaliser. Alors, il y a deux dimensions dans le texte d'Ésaïe 54 que je voudrais. Donc, il a dit, élargis l'espace de ta tente et affermis tes pieux. C'est ça? Vous me dites, hein, si je me trompe, hein. N'ayez pas peur, hein. Il y a l'espace, la première dimension. Je vais faire la quatrième dimension pour ceux qui sont les plus vieux, vous vous souvenez, là? La quatrième dimension. Non, il y en a que deux, là. L'espace agrandit, déploie, allonge. Agrandir. Déployer, allonger. La première dimension dans laquelle Dieu veut nous amener, c'est ça. C'est prendre de l'espace. Ah, pas uniquement physiquement, hein. Spirituellement, je parle aussi. Et c'est surtout à vos âmes que je parle. C'est à votre intelligence, à votre cœur, à votre désir, à prier de plus en plus, à chercher Dieu de plus en plus, à vouloir Dieu de plus en plus. On l'a chanté, j'ai soif, mon âme a soif de toi, Seigneur. Et tous les matins et tous les soirs, j'entends quand je suis dans les temps de prière, j'entends les frères, les sœurs, j'entends un mouvement de l'esprit qui est en train de créer une soif comme il n'y en a pas eu depuis des années dans ce pays. Une soif que Dieu veut amener dans les cœurs. Élargis l'espace de ta tente. Dieu veut créer de l'espace dans ton âme. Il veut créer de l'espace en toi. Il veut que tu sois de plus en plus prêt à accueillir les gens autour de toi, à leur prêcher de plus en plus la bonne nouvelle. Il veut t'amener de plus en plus à élargir ton cœur. Moi, ça ne me fait pas peur, à la limite, qui est... Des fois, ça pourrait peut-être vous faire peur à vous, mais moi, ça ne me fait pas peur. Qu'il y ait 300 personnes qui viennent, je prêcherai toute la journée s'il le faut. Et qu'on ait une salle qui reste dans l'état. Ça ne me pose pas de problème. Ça ne m'empêchera pas d'annoncer la bonne nouvelle. Au contraire, je serai fatigué, mais j'aurai le sentiment à la fin de ma journée d'avoir accompli la volonté de Dieu. Parce que dans mon cœur, il met un désir de m'élargir, de prendre de plus en plus de place pour les autres. La deuxième dimension, c'est la solidité. On va voir ce que c'est. On a beaucoup parlé ces derniers temps. Geoffrey a enseigné sur la parole de Dieu, toi, c'était Et moi, sur la prière, avoir soif de Dieu dans la prière, on nous a rappelé la semaine dernière que combien il était important dans notre relation avec Dieu. Dieu voulait nous transformer de l'intérieur. Mais moi, je ne veux pas vous parler de ça. Je ne dis pas que les frères en amont avaient tort, surtout que je faisais partie de ceux qui avaient prêché, mais je vous parlais du Saint-Esprit, de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Donc l'espace, il y a l'annonce d'un afflux d'âmes sauvées, d'accord ? La postérité prospérera. Il y aura de plus en plus de place pour l'Église. Et ne croyez pas que ce sera le contraire. Peut-être qu'à un moment donné, nous serons persécutés, mais dans les temps qui viennent, de plus en plus de place pour l'Église. Il faut donc un élargissement de notre capacité d'accueil. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à accueillir des gens? À accueillir des gens et des cas difficiles. Faites pas les petits chiens derrière les voitures. Vous pouvez le faire, mais je vous demande de réfléchir à ça. Parce que dès lors que j'élargis, moi, ma capacité d'accueillir, ça va être beaucoup plus inconfortable pour moi. Moi, si je reprends l'image de la petite tente à l'intérieur, et puis que je me retrouve dans la tente à deux, trois personnes, on a chacun à la limite la séparation de toile, on dort bien, on est, hein, on est au chaud, etc. Mais si la tente est comble, est-ce que ça va être aussi inconfortable pour toi? Je crois pas, hein. Le jour où on sera de plus en plus nombreux, ça demandera de plus en plus d'énergie, de plus en plus de patience, de plus en plus de prières, de plus en plus d'accompagnement pastoral, de plus en plus, en plus, en plus. Donc quand le Seigneur me dit « élargis l'espace », il dit « prépare-toi ». Et je vous rappelle l'image et la prophétie qui a été apportée à cette église concernant la vague. Qu'est-ce qu'il était dit ? J'ai ébranlé les cieux et la terre, il y avait toutes des personnes qui arrivaient sur la plage et le Seigneur demandait qu'on ouvre des maisons, qu'on ouvre des choses dans les maisons, qu'on arrête de se faire bronzer sur la plage, même si c'est sympa, mais qu'on prépare des postes avancés pour secourir les gens. Qu'avons-nous fait ? Enfin, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais vous, qu'avez-vous fait ? Est-ce que vous êtes entré dans cette vision des petits groupes ? C'est la question que je vous pose, parce que c'est là l'essentiel. Qu'on déploie les toiles de ta demeure. Prends de l'espace. Augmente ta capacité d'accueillir. Si je compte le nombre aujourd'hui de petits groupes dans cette communauté, ils sont insuffisants par rapport au nombre de personnes. Et lorsque je vois les personnes qui sont dans les petits groupes, c'est insuffisant par rapport à la vision que Dieu m'a donnée, parce que Dieu m'a montré une église entière, prête à accueillir des gens. Vous imaginez, on double le nombre de personnes ici, aujourd'hui, dans cette communauté. Je vous donne pas 2 mois que je fasse pas un burn-out. Parce que nous devons nous élargir, mes frères et mes sœurs. Élargis l'espace de ta tente. Il faut un élargissement des capacités. Mais pourquoi une tente ? Je me suis posé la question. Pourquoi une tente ? Ben, le Seigneur, il aime bien le camping, peut-être. Hein. Camping paradis ou... Ah. Excusez le jeu de mots. Le Seigneur, il aime bien le camping, peut-être. Non. Il donne une tente parce que la tente, c'est synonyme de flexibilité. Tu plantes ta tente, tu as besoin de bouger, il pleut, tu vas là où il y a du soleil. Tu ne déplaces pas un édifice, une maison comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère, ma sœur ? Ça veut dire qu'on doit apprendre à avoir une mentalité de campeur, une mentalité de la tente. Parce que quand Dieu bouge les choses par la nuée, quand il nous demande de bouger, j'ai vu ça, il y a une émission où il bouge les maisons aux États-Unis. Ah. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi, ils feront jamais ça avec la mienne. Bon, maintenant, c'est des ossatures bois. Hein. Ils bougent. Mais quand tu bouges une tente, tu as la capacité d'aller très vite là où Dieu te demande. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a montré. Il m'a appris dans cette année. De bouger avec une mentalité de campeur. De bouger avec ma tente. Pas ma tante Germaine. Ma tante. C'est de bouger ensemble. Pourquoi ? Parce que je crois que dans les temps qui vont venir, l'Église et la postérité qui voudra rester sur l'édifice, c'est-à-dire dans ce que nous avons connu dans le passé, dans ce que nous avons fait dans le passé, si nous disons « non, il faudra toujours que ce soit comme ça », mes frères, mes sœurs, on ne sera pas là où Dieu nous aura demandé d'aller. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu dois être prêt dans ton cœur, si tu veux élargir l'espace de ta tente, être prêt à avoir une mentalité de bouger avec Dieu, mais dans la rapidité. Qu'avons-nous fait ici ? Je vais juste vous donner un exemple. Premier confinement. On se dit, c'est pas possible, il faut qu'on continue à prier ensemble. J'avais qu'un seul désir, moi, en toute honnêteté, la première semaine, j'ai dit, super, pasteur vacances. Ah, j'étais heureux. Je vais profiter de mon jardin, prendre du temps avec le Seigneur, etc. Mais très vite, le Seigneur m'a repris, il m'a dit, Bruno, il faut que tu t'occupes des brebis. Donc, qu'avons-nous fait ? On a organisé des visios. On a acheté ce qu'il fallait pour le faire. Voilà la mentalité de l'attente. Que font les gens, que font les églises dans le monde entier où ils sont persécutés ? En Chine, on ferme les églises, c'est pas grave, ils vont dans les caves. Est-ce que ça les perturbe? Non. La gloire de Dieu se manifeste de plus en plus. Plus l'homme, et plus Satan, si je puis dire, plus l'homme s'oppose à la volonté de Dieu, plus Dieu mettra la pression sur l'homme. Et qui est le plus fort? L'Éternel est tout puissant, nous le chantons. Et alors, moi je crois vraiment que, s'il vous plaît, adoptez la mentalité de l'attente. Adoptez la mentalité de la flexibilité. Adoptez et bougez quand Dieu vous demande de bouger. Allez là où Dieu vous demande d'aller. Et cessez de dire, oh, moi pour l'instant, les visioconférences, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon truc, les visios. Mais vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, nous avons mis l'environnement de l'attente dans cette communauté. Je ne vous obligerai jamais à y aller. Vas-y, mon grand, fais comme chez toi.
Bonjour.
Allez. Du coup, je vais faire des bêtises, comme ça, je ne sais plus ce que je dis. Ça m'apprendra, tiens. Ouais, on a mis l'environnement en place. Et si je dois continuer à prier tous les matins, et d'ailleurs j'aime ça, vous ne pouvez pas vous imaginer, prier tous les matins avec mes frères en visio, ça ne me pose aucun souci. Et si même un jour je dois faire autrement, je dois me planquer dans la cave de ma belle-mère, j'irai dans la cave de ma belle-mère louer et adorer Dieu. Peu importe l'endroit où je suis, parce que ce n'est pas les circonstances qui vont m'influencer. Ce qui m'influence, ce qui me percute, c'est la mentalité. Je bouge là où la nuée me fait bouger. Là où le Saint-Esprit me fait bouger. Et il dit, ne retiens rien. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus pourquoi j'ai noté ça, donc je vais dire. Tu rigoles, mais tu verras, quand tu vieillis, tu perds la mémoire. Hein. Je mets, ne retiens rien. Ouais, c'est comme si ça devenait une priorité pour le Seigneur. Pourquoi je dis ne retiens rien? Parce que parfois on a peur de bouger. On se dit, mais est-ce qu'il va falloir que... Vous comprenez? On a peur du changement. On a peur d'aller vers d'autres choses. On a peur d'une forme de culte différente. On a peur d'une forme d'église différente. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ne retiens rien. Élargis. Étends-toi. Et déploie, peut-être que le Seigneur va nous donner d'autres couvertures, hein, pour étendre encore, je le crois vraiment. Peut-être même qu'il va nous donner notre salle de culte, peu importe, il fera ce qu'il voudra et nous suivrons le Seigneur. Là, il a décidé de nous emmener. Alors la deuxième dimension, la première dimension, c'est l'espace. La seconde dimension, c'est l'affermissement, la solidité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aurais pu vous parler, allez, prier pour être plus fort. J'aurais pu vous dire, et je ne dis pas que ce n'est pas vrai, hein, c'est vrai, hein, priez, vous serez mieux. Hein, lisez, méditez la parole, oui, je le crois. Mais être fort, c'est avant tout et autre chose qu'une question d'intellect. Et je vais bousculer peut-être des choses ce matin, mais j'ai l'intention en tout cas de voir le Seigneur agir avec puissance dans nos cœurs, dans nos vies. Je crois qu'avant tout, que c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Être fort, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et plus j'ai l'Esprit de Dieu en moi, plus je serai fort. Si j'ai un peu de l'esprit, je sais que ça bouscule. Hein, parce que nous croyons et nous savons que l'Esprit de Dieu vient en nous lorsque nous naissons de nouveau. Mais il y a quand même, et je le vois dans le livre des Actes, et je vais le voir, on va tordre, aller voir dans les Écritures, mais regardez, quand je lis l'Ancien Testament, Ézéchiel 37, 10. Vous connaissez l'histoire de ces ossements desséchés? On en a parlé il n'y a pas longtemps ici, je crois. Et quand on regarde les ossements desséchés, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Il demande à Ézéchiel de prophétiser. Esprit vient des quatre vents et souffle sur ses morts. Et que se passe-t-il ? À la sortie de la parole prophétique de ce qui est prononcé par un homme, il est écrit qu'il en vit sortir une armée. C'est vraiment intéressant d'aller relever ça. Une armée. Pas un peuple. Pas un troupeau. Pas une armée. Une armée nombreuse, très nombreuse, nous dit le texte. Quand je lis l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, je m'aperçois qu'à chaque fois qu'un homme a été rempli d'esprit, à chaque fois, il a été fort et solide. Et je veux faire plaisir à certaines personnes, il y a même des femmes. Déborah, c'est une femme avec beaucoup d'onction, d'autorité, qui a su emmener des hommes qui n'arrivaient pas à entrer dans l'obéissance. Elle a entraîné tout un peuple vers la victoire. Et nous avons besoin de l'Esprit, au regard de ce que dit l'Écriture dans l'Ancien Testament, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, d'être pleins d'Esprit Saint. Ensuite, il y a le commandement de Jésus qui dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit soit en vous et vous serez mes témoins. » Vous savez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte ? Ah, je sais, on va fêter la Pâque bientôt, mais moi j'ai envie de fêter la Pentecôte. Enfin, c'est Dieu qui a envie de le faire, je crois. Ne nous arrêtons pas à des dates. Même si on va, la semaine prochaine, on va faire un truc spécifique, Pâques. Mais je crois que le Seigneur veut bousculer les choses. Et il nous dit, la puissance du Saint-Esprit, que les choses soient claires, ils ne pouvaient être des témoins s'ils n'avaient pas reçu cette puissance. Et la priorité de Jésus, alors qu'il va rejoindre le Père, dit « Ne partez pas sans avoir cette puissance. N'allez pas dans les nations sans que vous n'ayez pas cette puissance. » C'est l'Esprit de Dieu qui me rend fort. C'est l'Esprit qui m'affermit. C'est l'Esprit de Dieu qui me rend solide. Et nous sommes dans un monde, dans une société occidentale qui est ultra intellectualisée. Nous devons tout comprendre. Nous devons tout expliquer pour croire. Ça, c'est faites attention. Il est écrit simplement « Recevez la puissance du Saint-Esprit ». Jésus n'a pas fait de doctrine là. Il a dit, vous avez besoin de l'Esprit pour être mes témoins. J'avance plus. L'enseignement de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 16, il est écrit. Et il prie, Paul. Et il prie. Et je prie ce matin, je vous assure, c'est pas seulement une prédication. Je prie vraiment avec mes tripes. Et je demande que le Seigneur puisse nous fortifier puissamment par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. C'est juste une prière. C'est un peu la parole prophétique d'Ézéchiel qui est répétée plusieurs siècles après, où un homme, Paul, déclare, Seigneur, qu'il soit fort et qu'il vive pour toi. Puissamment fortifié dans l'être intérieur. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous, ça. Et en moi, j'espère. Et c'est ce que je veux. Et tu ne pourras, tu auras beau mettre la structure que tu veux. Tu auras beau mettre sur cette plage toutes les maisons que tu veux, avec les postes avancés pour accueillir ces personnes, si tu n'as pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir ces choses, tu passeras à côté de la volonté de Dieu. Parce que nous n'arriverons pas à tenir le coup. Vous êtes d'accord avec moi ? Imaginez, nous sommes combien ce matin ? Je ne sais pas, mais imaginez le double de personnes qui arrivent ici avec autant de difficultés, avec plein de difficultés. Et nous, nous sommes considérés comme étant solides. Est-ce que vous croyez qu'on va tenir le coup comme ça ? Non, on a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin que les gens soient guéris tout de suite. On a besoin de voir que les gens soient délivrés tout de suite. Et je repris pour la personne qui a une oppression, qui avait l'oppression ce matin. Je déclare ça, moi. Je veux voir ça. Ah oui, alors tu as une oppression, oui, explique-moi. Ah ben, je te reverrai la semaine prochaine. Non, 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 c'est tout de suite. Jésus ne faisait pas de détails. Vous êtes d'accord avec moi ? Et on est en train de déformer l'évangile aujourd'hui. L'évangile est une puissance. Et entrons dans cette puissance. Et vivons cette puissance. Et le Seigneur dit, la tente aura beau s'élargir, si les pieux qui la retiennent ne sont pas solides, la tente, et déjà ça, sera emportée par le vent. Je vais me dépêcher. Ah, je vous ai mis des petites bébêtes dont j'ai horreur. La nécessité d'être fort indéformable. Qu'est-ce qui fragilise un pieu en bois, à votre avis ? Juste cette image, vous savez, des petites bestioles qui rentrent dans les maisons, là. Et elles bouffent, elles grignotent le bois et de l'intérieur. Et parfois même, vous avez juste des points d'entrée et vous avez l'impression que la poutre à l'intérieur, elle est nickel. Mais quand vous l'ouvrez, ça fait ça. Ça fait comme cette image ici, là à droite. Le petit verre, là, il est bien content. Ça te rappelle quelque chose, ça, Jean-François ? Le petit verre blanc. Il en a mangé. J'en ai mangé en Thaïlande. J'en ai mangé qu'un, mais... Enfin bref. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui fragilisent. Qui nous fragilise. Il y a des choses qui nous rongent de l'intérieur. Et il y a des choses que Jésus veut purifier ce matin. Ah. Et c'est quoi ces petites choses ? C'est de l'animosité vis-à-vis de quelqu'un ? C'est un péché ? À vous de répondre. C'est de la haine ? Un manque d'amour ? L'égoïsme, l'orgueil, l'impureté, l'immoralité, la jalousie, la querelle, la rivalité. Quelque chose d'autre ? Peut-être que c'est une incompréhension d'une épreuve que tu as vécue. Peut-être que c'est de la tristesse. Peut-être que c'est de la culpabilité. Je ne sais pas. Et j'ai regardé, le nombre d'insectes qui bouffent le bois et qui fragilisent le bois sont énormes. Je m'attendais à avoir un seul type d'insecte. Des fois, ça peut être des mouches. Des fois, ça peut être un ver. Des fois, ça peut être plein de choses comme ça. Et je me dis, mais c'est quoi aujourd'hui, Seigneur, qui est là et qui me fragilise ? Et j'ai partagé ça cette semaine au petit groupe. Je bénis les petits groupes. Vous allez me dire, Bruno, il n'y a pas de problème, lui. Hein, il n'y a pas besoin d'être guéri. Hein, il n'y a pas de mouche en lui. Ben si, malheureusement, j'ai quelques mouches un peu mortes là qui doivent être encore enlevées. J'avais une conversation avec quelqu'un et ça m'avait profondément blessé. Mais vraiment blessé. Et je ressors de la conversation avec cette personne et j'en parle à ma femme. Enfin, je l'appelle, j'ai dit, je suis malheureux, chérie. C'est comme ça qu'on fait, nous, les hommes. Hein. On fait les mecs les durs et puis... Si on est à peine ébranlé, il faut qu'on aille sur l'épaule de notre femme. C'est notre petit coussin d'amour, si je puis dire, comme Maryse dit. Et je lui dis, et Maryse, elle était dans la voiture, quand je l'appelle, elle raccroche et elle dit, quand même, Bruno, à chaque fois, il m'appelle pour le même type de situation. Il faudrait que ça soit réglé, ça. Le petit groupe arrive derrière, je partage ça. Et là, des témoignages... Il y avait Anne-Claire, il y avait Pauline, Maryse, il y avait Dorothée, je crois, et moi, dans ce petit groupe. Et je partage, je dis, voilà, je suis trop facilement affecté par ça. Je sens que le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Et les sœurs, ouais, j'étais le seul mec. Ah, les sœurs étaient en train de partager des choses très intéressantes. Hein, et je me sens interpellé par le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, je vais manger, parce qu'il fallait que j'aille manger vite fait avant que le restaurant du campus ne ferme. Et je suis retourné dans ma chambre. Et j'ai dit, Seigneur, je veux la guérison. Tu mets le point précis sur quelque chose dont je veux être guéri maintenant. Et j'enlève ça de mon cœur par la prière. Je vous tiendrai au courant. Si un jour vous me dites un truc comme ça et que ça ne me blesse plus, je dis, merci Seigneur, tu viens de me dire un truc qui n'est pas gentil, mais ça ne me blesse plus. Ah, qu'est-ce que Dieu est bon. Alors maintenant, je vais faire un hommage à une sœur, à une vieille sœur, hein. C'est une très vieille sœur, qui a quelques années, elle a vécu un temps comme ça, donc par respect pour elle, je ne la citerai pas. Je veux juste citer Ecclésiaste 10, verset 1. Et elle a dit quelque chose cette semaine. C'est la conclusion, ouais. Elle a dit, cette semaine, ça m'a... Alors que j'étais en train de vivre ce que je viens de vous raconter. Elle dit, j'avais une vingtaine d'années, je crois. Lors d'une réunion, le prédicateur a pris ce verset. Il a dit, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Qu'est-ce que ça a touché mon cœur ? Et je me suis dit, ouah Seigneur, je veux enlever les mouches mortes. Parce que je ne veux pas que l'esprit qui est en moi soit impropre à la consommation. Je ne veux pas que le parfum de Christ en moi, le parfum de l'esprit, la vie de l'esprit qui est en moi, vienne frelater, vienne rendre ce parfum impropre. Il y a des odeurs qu'on n'a pas envie de sentir. Et vous savez, la fermentation, je m'y connais. Vous allez dans un centre de traitement de déchets, des ordures ménagères qui vont fermenter dans le fond de la fosse pendant des semaines, quand vous remuez ça, ça pue. Et j'ai même une expression que j'utilise, que vous me pardonnerez, ça pue le mort. C'est atroce. Déjà, vous imaginez vos poubelles l'été à la fin de la semaine, là. Hein, quand vous les ouvrez, vous faites ça, ben c'est pire encore, avec plus de volume. Et je crois que le Seigneur, ce matin, veut enlever des mouches mortes. Et je crois qu'il veut renouveler la vie de l'esprit en chacun de nous. Et j'ai cette certitude, parce que ça fait trop longtemps que je parle, et que nous allons prier, et j'ai cette certitude que ce matin, j'ai vécu cette semaine cet événement, et c'est pas pour rien, je crois, pour que ce que je vous dise aujourd'hui fasse écho dans votre cœur, parce que pour que je sois convaincu de ce que je vous dis est vrai ce matin. Alors ce matin, on va tout simplement prendre le temps de fermer les yeux. On écoute le Seigneur. Tu veux enlever des mouches mortes. Tu veux enlever mes mouches qui fermentent ton huile, Seigneur. Et tu veux purifier notre âme. Tu veux purifier notre cœur. Tu veux enlever de la colère. Tu veux enlever de l'animosité. Tu veux enlever peut-être de l'incompréhension. Tu veux purifier le vase. Tu veux purifier ma vie, Seigneur. Et je viens vers toi ce matin. Parce que dans... Aujourd'hui, là, peut-être que tu as parlé à plusieurs d'entre nous, Seigneur. Peut-être que tu as travaillé des cœurs. Tu as... Oh là. Seigneur, dis à quelqu'un, je veux que tu ailles demander pardon. Tu as fait du mal. Et pourtant, tu étais peut-être dans ton... Tu avais sans doute raison, peut-être, sur le fond, mais la forme n'y a pas été. Et le Seigneur dit à cette personne, je veux que tu ailles demander pardon. J'enlève ce matin, Seigneur, ma peur, mes craintes. J'enlève, Seigneur, toutes ces mouches mortes Moi, tu m'as parlé cette semaine, mais je crois qu'il y en a d'autres. Tu veux purifier. Tu veux purifier mon âme. Je prie pour l'Église. Je prie pour que cette Église, que les gens qui sont là ce matin, mais aussi ceux qui écoutent ce message, prennent le temps de prier avec nous et qu'ils fassent cette démarche. Parce que tu ne veux pas perdre ce parfum, le rendre impropre. Je crois que dans les temps qui viennent, tu vas purifier. Tu vas sanctifier. Le Seigneur dit à Marie, demande, réconcilie-toi. Viens, Saint-Esprit. Il dit à ce mari, tu es trop dur. Et rappelle-toi, fils, que avec mon épouse, je ne suis pas aussi dur que toi, tu ne l'es. Avec l'épouse, je la purifie. Je la revais d'une belle robe. Je la protège, je la nourris. Demande pardon. Purifie, Seigneur, ce matin. Viens enlever les mouches. Moi, en tout cas, j'en ai enlevé une cette semaine. Je veux enlever d'autres mouches encore. Parce que je veux l'effusion de l'Esprit. Parce que je veux être rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Parce que je veux que tout le parfum que tu auras mis en moi soit répandu dans la pièce. Comme Marie a répandu, cette femme pécheresse a répandu le parfum sur toi. Elle est venue pleurer. Elle est venue pleurer de repentance. Je prie pour cela, Seigneur. Je prie pour l'Église. Je prie, Seigneur, pour que le Saint-Esprit vienne ce matin. Viens, Saint-Esprit, viens. Oh, viens, Seigneur. Viens, viens, Saint-Esprit, viens, purifie les cœurs.